29. Jean Dibal ne revit pas Novi jusqu'après le dîner, où elle lui revint, raccompagnée par la femme à laquelle il avait interminablement dû expliquer la situation, du moins le caractère non sexuel de la situation. Elle avait enfin compris, ou du moins n'avait pas osé laisser paraître son incapacité à comprendre, ce qui valait peut-être aussi bien. Novi était à présent devant lui, timide et fière, triomphante et gênée, tout cela à la fois en un mélange fort incongru. Il lui dit « Mais tu es très jolie, Novi. » Les vêtements qu'on lui avait procurés lui allaient étonnamment bien, et elle était loin de paraître ridicule. Lui avait-on pincé la taille, rehaussé les seins, ou bien ses vêtements de paysanne l'avaient-ils tout simplement empêché de mettre en valeur sa silhouette? Elle avait les fesses rebondies, mais pas d'une manière désagréable. Son visage, bien entendu, demeurait quelconque, mais une fois que se serait atténué le hâle de la vie au grand air et qu'elle aurait appris à soigner son teint, il ne serait pas franchement laid. Par le vieil empire. Mais c'est que cette femme prenait Novi pour sa maîtresse. Elle s'était efforcée de l'embellir pour lui. Et puis il songea. Après tout, pourquoi pas? Novi devrait affronter la table des orateurs, et plus elle paraîtrait séduisante, plus il aurait de facilité pour faire valoir ses vues. Il en était là de ses pensées lorsque le message du premier orateur l'atteignit. C'était le genre d'adéquation qui était fréquente dans une société mentaliste. On appelait ça, plus ou moins officieusement, l'effet de coïncidence. Si vous pensez vaguement à quelqu'un au moment même où celui-ci pense vaguement à vous, il se produit une stimulation mutuelle en cascade qui, en l'affaire de quelques secondes, va rendre les deux pensées parfaitement claires et nettes et leur procurer toutes les apparences de la simultanéité. La chose peut se révéler surprenante, même à ceux qui la comprennent intellectuellement, surtout lorsque ses pensées initiales étaient si vagues, d'un côté comme de l'autre, voire des deux, qu'elles n'avaient pas été consciemment perçues. « Je ne peux pas rester avec toi ce soir, Novi, » expliqua Jean Dibal. « J'ai un travail de recherche à faire. Je vais te raccompagner à ta chambre. Tu y trouveras des livres, comme ça tu pourras toujours t'exercer à la lecture. Je te montrerai comment utiliser le signal d'appel si jamais tu as besoin de quelque chose. Et on se revoit demain. » 30. Jean Dibal dit poliment. « Premier orateur ?» Chandès se contenta d'opiner. Il semblait amer, et il paraissait amplement porter son âge, l'air d'un homme habituellement sobre qui aurait eu besoin d'un bon verre d'alcool. Il dit enfin « Je vous ai appelé. » Sans messager. J'ai déduit de cet appel direct que ce devait être important. Effectivement. Votre gibier, l'homme de la première fondation, se trévise. Eh bien? Eh bien, il ne vient pas du tout à Trentor. Jean Dibal n'afficha aucune surprise. Et pourquoi faudrait-il qu'il vienne? D'après nos informations, il était parti avec un professeur d'histoire antique qui était à la recherche de la Terre. Oui, la planète originelle des légendes. Et c'est bien pourquoi il devrait être en train de se diriger vers Trentor. Après tout, le professeur sait-il où se trouve la Terre? Le savez-vous? Le sais-je, moi? Peut-on même être certain qu'elle existe ou qu'elle a jamais existé? Incontestablement, ils auraient dû venir consulter notre bibliothèque pour trouver les informations nécessaires, si on doit en trouver quelque part. Il y a encore une heure, j'aurais dit que la situation n'avait pas atteint le niveau critique. J'aurais pensé que le premier fondateur viendrait ici et qu'ainsi, à travers lui, nous saurions ce que nous avions besoin de savoir. Ce qui est très certainement la raison pour laquelle on ne lui a pas permis de venir. Mais dans ce cas, où peut-il donc aller? Nous ne l'avons pas encore trouvé, à ce que je vois. Vous avez l'air de prendre la chose avec calme, remarqua le premier orateur, l'air maussade. Je me demande si ça ne vaut pas mieux ainsi. Vous voulez qu'il vienne à Trentor pour l'avoir sous la main et l'utiliser comme source d'information? Ne se révélera-t-il pas toutefois un informateur bien plus efficace, impliquant éventuellement des gens bien plus importants que lui, s'il reste libre de ses mouvements et de ses actes, pourvu qu'on ne le perde pas de vue? Ce n'est pas suffisant, protesta le premier orateur. Maintenant que vous m'avez convaincu de l'existence de ce nouvel ennemi, je ne peux plus rester en place.
Puis encore, je me suis persuadé qu'il nous fallait mettre la main sur Trévise, ou sinon nous risquions de tout perdre. Je ne peux pas me défaire de l'idée que c'est lui, et lui seul, qui est la clé de tout.
Quoi qu'il advienne, dit avec conviction Jean Dibal, nous ne perdrons pas. Premier orateur, ceci aurait été seulement possible si ces anti-mulets, pour reprendre votre terme, avaient continué de nous manœuvrer incognito. Mais nous savons désormais qu'ils sont là. Nous ne travaillons plus à l'aveuglette. Dès la prochaine réunion de la table, si nous pouvons collaborer tous, nous initierons notre contre-attaque.
Ce n'est pas à cause de Trévise que je vous ai envoyé cet appel. Si le sujet est venu aussitôt, c'est uniquement parce que je le considère comme un échec personnel. J'avais mal analysé cet aspect de la situation. J'ai eu le tort de placer mon orgueil personnel au-dessus de la politique générale, et je m'en excuse. Non. C'est pour autre chose.
De plus grave, premier orateur, c'est le cas, orateur Jean Dibal. Le premier orateur poussa un soupir et pianota du bout des doigts sur le bureau tandis que Jean Dibal, toujours debout, attendait patiemment devant lui. Enfin, avec douceur, comme si cela pouvait atténuer la rudesse du choc, le premier orateur expliqua « Au cours d'une réunion d'urgence du conseil convoquée par l'oratrice de l'armée, sans votre accord, premier orateur, pour ce qu'elle comptait faire, elle n'avait besoin que de l'accord de trois orateurs, le mien non compris. Lors de cette réunion d'urgence, donc, on a prononcé votre destitution, orateur Jean Dibal. Vous avez été convaincu d'incapacité à l'exercice de la fonction d'orateur, et vous devrez passer en jugement. C'est la première fois en plus de trois siècles qu'une telle procédure est appliquée contre un orateur. »
Luttant pour ne pas trahir sa colère, Jean Dibal dit « Je suis sûr que vous-même, vous n'avez pas voté ma destitution. »
« Effectivement, mais je fus le seul. Le reste de la table s'est prononcé de manière unanime et votre destitution est passée par 10 voix contre 1. Le minimum requis, comme vous le savez, est de 8 voix, y compris celle du premier orateur, ou de 10 sans la sienne. »
« Mais je n'étais pas présent. »
Vous n'auriez pas eu le droit de voter.
J'aurais pu présenter ma défense.
Pas à ce stade. Les précédents sont rares, mais sans équivoque. Vous pourrez vous défendre lors du procès qui doit intervenir le plus tôt possible, naturellement.
Jean Dibal inclina la tête, pensif. Puis il dit «
Tout ceci ne me préoccupe pas trop, premier orateur. Je crois que votre pressentiment initial était juste. La question de Trévise prend le pas sur tout le reste. Puis-je vous suggérer de retarder le procès en invoquant ce motif ? »
Le premier orateur leva la main.
« Je ne vous reprocherai pas de ne pas bien saisir la situation, orateur. La procédure de destitution est si rare que j'ai dû moi-même me reporter au texte en vigueur à ce sujet. Rien ne peut prendre le pas dessus. » Nous sommes contraints d'aller directement au procès, en remettant tout le reste. »
Jean Dibal posa les poings sur le bureau et se pencha vers le premier orateur. « Vous n'êtes pas sérieux. »
« C'est la loi. »
« La loi ne peut quand même pas s'interposer devant un danger imminent et manifeste. »
« Aux yeux du conseil, orateur Jean Dibal, c'est vous le danger imminent et manifeste. »
« Non. Écoutez-moi. La loi invoquée se fonde sur le principe que rien ne peut être plus important que l'éventualité de la corruption ou d'un abus de pouvoir de la part d'un orateur. Mais je ne suis coupable ni de l'un ni de l'autre, premier orateur. Et vous le saviez. Il s'agit uniquement d'une vengeance personnelle de la part de l'oratrice de l'armée. S'il y a abus de pouvoir, il est de son côté. Mon seul crime est de n'avoir jamais cherché à me rendre populaire, je veux bien l'admettre. Et d'avoir prêté trop peu d'attention aux imbéciles assez âgés pour être séniles, mais assez jeunes encore pour détenir le pouvoir.
Comme moi, orateur.
Jean Dibal soupira.
Vous voyez, je remets ça. Je ne fais pas allusion à vous, premier orateur.
Bon, très bien.
Faisons donc un procès. Commençons-le demain, mieux même ce soir. Qu'on en soit débarrassé et qu'on passe tout de suite à la question de Trévise. On ne peut pas se permettre de perdre du temps.
Orateur Jean Dibal, je ne crois pas que vous compreniez la situation. Nous avons déjà eu des destitutions, pas beaucoup, deux en tout et pour tout, et aucune n'a débouché sur une condamnation. Vous, en revanche, vous allez être condamné. Vous ne ferez plus partie de la table, et vous n'aurez plus votre mot à dire en matière de politique. Vous n'aurez, en fait, même plus le droit de vote lors de l'Assemblée annuelle.
Et vous n'allez rien faire pour empêcher ça ?
Je ne peux pas.
Je serai aussitôt mis en minorité, et contraint alors de démissionner. Ce que, je crois, tous les orateurs aimeraient bien voir. Et Delarmie deviendra le premier orateur.
C'est très probable.
Mais il faut absolument empêcher ça.
Exactement. C'est bien pour ça que je vais être obligé de voter votre condamnation.
Jean Dibal prit une profonde inspiration. Je demande quand même un procès immédiat.
Vous devez avoir le temps de préparer votre défense.
Quelle défense ? Ils n'écouteront aucune défense. Un procès immédiat. Il faut bien que la table ait le temps de préparer son dossier. Ils n'en ont pas et s'en passeront très bien. Leur intime conviction est déjà faite et ils n'ont pas besoin d'autre chose. En fait, ils me condamneraient plutôt demain qu'après-demain et ce soir plutôt que demain. Allez les prévenir.
Le premier orateur se leva. Les deux hommes se firent face de part et d'autre du bureau. Le premier orateur dit :
Pourquoi êtes-vous si pressé ?
L'affaire Trévise ne peut pas attendre.
Une fois vous condamné et moi affaibli face à un conseil uni dans son opposition, qu'aurons-nous gagné ?
Jean Dibal répondit avec un profond soupir.
N'ayez crainte.
Contre toute apparence, je ne vais pas être condamné.